Merci d'écouter RFI, 11h30 en temps universel, il est 13h30 ici à Paris. C'est une demi-heure consacrée à l'actualité en Europe qui commence. Et puis, dans une demi-heure, votre journal Olivier Sherman, bonjour.
Bonjour Anne Cantner.
Vous nous parlerez de la situation à Los Angeles.
Avec la mise en place d'un couvre-feu et le déploiement de la garde nationale, les troubles sont restés contenus entre manifestants et forces de l'ordre. Mais nous verrons que les rassemblements de soutien aux immigrés se sont étendus depuis le début de la semaine à plus d'une vingtaine de villes dans l'ensemble des États-Unis. Nous verrons la crise politique ensuite que traverse aujourd'hui Benjamin Netanyahou, la Knesset, le Parlement israélien, pourrait voter dans la journée la dissolution de la fragile coalition gouvernementale.
Dans votre journal également, le Brésil, avec le procès de l'ancien président Bolsonaro, il est accusé de tentative de coup d'État en 2022 après sa défaite face à l'actuel chef de l'État, Lula.
Et en France, pression maximale pour le gouvernement après le meurtre d'une surveillante d'un collège, tuée à coups de couteau hier par un élève de 14 ans. La droite et l'extrême droite appellent à durcir les lois et critiquent le pouvoir en place. Enfin, nous verrons qu'un jeu vidéo taïwanais a fait les frais de la censure implacable du régime chinois et a disparu des plateformes de téléchargement. Dans ce jeu, les joueurs pouvaient renverser le pouvoir de Pékin.
A tout à l'heure.
RFI, l'Europe à midi.
C'est une journée symbolique pour le Premier ministre en Pologne, comme il l'avait annoncé après la victoire du candidat ultra-conservateur à la présidentielle il y a 10 jours. Donald Tusk se soumet à un vote de confiance du Parlement. L'objectif, c'est que sa majorité renforce un gouvernement qui n'a pas réussi à imposer son candidat pour la présidence. Mais le risque, c'est de mettre en lumière une fois encore ces deux Polognes irréconciliables, de démontrer la polarisation extrême du pays. Un exemple, dans la petite ville de Grójec, dans le centre, le second tour de la présidentielle s'est joué à 4 voix seulement. Notre correspondant Adrien Sarlat s'y est rendu.
Sur la terrasse de sa maison, accolée à ses 20 hectares de pommiers, Vodek se réjouit de l'élection du nouveau président et espère la chute du Premier ministre Donald Tusk.
Le gouvernement doit démissionner, c'est logique, il n'y a pas d'autre option.
Comme la moitié de l'agglomération de Grójec, l'agriculteur de 67 ans a voté pour le candidat nationaliste et conservateur, Karol Nawrocki.
Je viens d'une famille où on est attaché aux traditions, c'est comme ça. La campagne n'était même pas nécessaire. Je savais déjà pour qui j'allais voter depuis le début.
Mais de l'autre côté de la clôture, son voisin Grzegorz n'est pas du même avis.
Il y a des insouches.
J'ai fait le seul choix sensé, j'ai voté Trzaskowski. J'ai voté pour lui en ayant à l'esprit que l'autre candidat, vu son passé, n'avait rien à faire à ce poste. Et la politique du PiS ne me convient pas.
Alors pour éviter de gâcher les relations de bon voisinage, les deux hommes qui se connaissent depuis l'école maternelle ont trouvé un accord tacite.
On s'est accordé pour ne pas parler de politique. Je ne le convaincrai pas, il ne me convaincra pas non plus, alors à quoi bon ?
Il aurait pourtant suffi de convaincre 4 personnes de changer leur vote pour faire basculer l'issue du scrutin dans cette ville de 17 000 habitants, miroir d'une Pologne toujours plus polarisée. Adrien Sarlat, Grójec, RFI.
C'est donc une Pologne très fortement divisée que Donald Tusk va tenter de gouverner pendant les 2 prochaines années, jusqu'aux législatives de 2027. Bien sûr, la défaite de son camp à la présidentielle complique beaucoup les choses. Bonjour Daniel Valo.
Bonjour.
Ce que cherche le Premier ministre aujourd'hui, c'est bien un nouvel élan.
Oui, le vote qui va avoir lieu dans l'heure qui suit au Parlement polonais, ce vote de confiance que Donald Tusk veut chercher. Le premier ministre polonais s'est d'ailleurs exprimé ce matin devant une chambre basse à moitié vide, puisque les députés de l'opposition, ceux du PiS et ceux du parti d'extrême droite Konfederacja, ont refusé de venir écouter le discours du Premier ministre. Donald Tusk venu réclamer cette confiance qui a échappé au candidat de son parti à la présidentielle, battu au début du mois par le candidat du PiS.
Je demande un vote de confiance, car je suis convaincu que nous avons le mandat pour gouverner, pour assumer l'entière responsabilité de ce qui se passe en Pologne.
Le Premier ministre élu en 2023 sur des promesses de réformes libérales et progressistes et qui n'a pas réussi à les engager, ces réformes, en partie à cause du président sortant, Andrzej Duda, qui a entravé ces tentatives, mais en partie également en raison des divisions de la coalition qu'il soutient. Bilan mitigé donc, mais 2 motifs de satisfaction mis en avant ce matin par Donald Tusk dans son discours. D'abord, l'influence retrouvée de la Pologne sur la scène internationale, singulièrement en Europe, et ensuite, la bonne santé de l'économie polonaise.
Cette année et demie de gouvernement a été un grand oui pour le développement. La Pologne est redevenue un acteur très important en matière d'investissement. Ce n'est pas une coïncidence. Vous souvenez-vous de la couverture de la revue The Economist montrant la Pologne comme le pays le plus impressionnant d'Europe en termes de développement.
Je connais le goût de la défaite, mais pas celui de la capitulation, a dit aussi Donald Tusk dans ce discours. Le Premier ministre polonais refuse donc de baisser les bras, et ce, malgré l'arrivée à la présidence de Karol Nawrocki.
Oui, et le danger immédiat pour Donald Tusk, c'est de voir sa coalition se déliter après la défaite à la présidentielle. Plusieurs de ses partenaires, à gauche, au centre et à droite, estiment que c'est lui qui est responsable de l'échec de Rafał Trzaskowski. Certains ont même avancé l'idée, tout simplement, de le remplacer par un autre chef de gouvernement. C'est pour ça que Donald Tusk a provoqué ce vote de confiance qui n'était pas nécessaire du point de vue de la constitution polonaise. L'objectif est bien de se donner une nouvelle légitimité politique pour tenter de faire face à ce président qui pourrait être encore plus hostile que son prédécesseur.
Avec un risque limité pour Donald Tusk qui est a priori assuré d'obtenir ce vote de confiance.
Oui, car il a besoin d'une majorité simple et en théorie sa coalition dispose de cette majorité. Un coup de théâtre n'est pas à exclure bien sûr, et dans ce cas si Donald Tusk perd ce vote, eh bien, il y aura un gouvernement chargé des affaires courantes, des élections anticipées et peut-être la possibilité pour le PiS de revenir au pouvoir. Si au contraire, et comme s'y attendent la plupart des observateurs, Donald Tusk obtient tout à l'heure la confiance du Parlement, le Premier ministre polonais en ressortira renforcé, rassuré sur la solidité de sa coalition. Mais cela sera une victoire de courte durée, car sur le long terme, l'équation va rester extrêmement difficile pour Donald Tusk, avec un président polonais qui va sans doute bloquer la plupart de ses réformes et qui va tout faire, bien sûr, pour favoriser la victoire du PiS au plus tard lors de ces élections prévues en 2027.
Daniel Vallaud.
RFI, l'Europe à midi.
L'actualité en Europe, c'est aussi le choc en Autriche. Jamais le pays n'avait vécu un drame comme celui d'hier, une fusillade dans un lycée. Cela s'est passé à Graz, la deuxième ville du pays. Elle se trouve dans le sud-est. Un ancien élève de 21 ans est entré. Il a ouvert le feu. Il a tué 10 personnes avant de se suicider. Reportage de l'envoyé spécial de France Inter, Simon Le Baron.
Les deux mains de Lisa restent accrochées à celles de Laura sur le parvis de la cathédrale. Et pendant qu'elle parle, une troisième amie, 25 ans elle aussi, leur tend des mouchoirs. C'est mon école, dit Lisa. C'est dans cet établissement qu'elle a rencontré ses meilleures copines. Elle a pleuré après le bac quand elle l'a
quittée.
Je pense aux familles qui ont perdu leurs enfants. Et qui traversent le pire moment de leur vie. Je ne sais pas comment on peut sortir de ça.
D'abord, en étant solidaire, Laura l'a vu en répondant à l'appel de la Croix-Rouge.
Je suis allée donner mon sang. J'avais l'impression que tout Graz était là. Ça m'a touchée de voir que toute la ville se tenait ensemble.
Ils sont des centaines à sortir de la messe d'hommage aux victimes. Philippe et Anna sont retraités. Lui dit qu'il est resté paralysé toute la journée. Elle, que ce genre de violence était impensable dans cette ville, dans ce pays.
C'est un choc. C'est un monde idéal qui s'effondre. On pense que ça peut arriver aux États-Unis, mais pas ici.
Pourtant ici, pas de polémique. La maire de Graz soupire. Une réponse politique? Elle dit qu'on ne sait pas pourquoi le meurtrier a fait cela. Qu'un jour, peut-être, on pourra en tirer des conséquences. Mais que cela ne ramènera pas les morts. Elle Kekar est une élue communiste, le chancelier et le ministre de l'Intérieur, conservateur, passent sans un mot devant la caméra. L'heure est bel et bien à l'unité. Autour de la fontaine, devant la mairie, des milliers de jeunes viennent allumer des bougies.
Reportage de l'envoyé spécial de nos confrères de France, de la radio France Inter, Simon Le Baron. Cette fusillade et l'assassinat d'une surveillante hier également par un élève de 14 ans en France conduisent de nouveau l'Union européenne à s'interroger sur la sécurisation des établissements scolaires. Mais ça n'est pas facile. Bruxelles peut agir, mais à la marge, car les questions relatives à l'éducation restent strictement nationales. Pierre Benazet.
L'Union européenne ne possède pas de compétences en matière d'éducation, mais elle a mis en place des programmes pour la prévention, l'inclusion, contre la violence et le harcèlement, ou bien pour la cybersécurité. La sécurisation physique des écoles, elle, varie fortement d'un pays à l'autre, voire même à l'intérieur d'un même pays, par exemple en Allemagne, où c'est à chaque land d'imposer ses règles et où les écoles sont pour la plupart ouvertes aux visiteurs malgré le traumatisme des 15 morts de la fusillade de Winnenden. C'est en France et surtout au Royaume-Uni que les conditions de sécurité sont les plus importantes en Europe. On y retrouve le plus souvent des caméras, des badges d'accès, voire des gardiens. En Europe du Nord, c'est la prévention qui est la priorité, même si en Suède, certains gardiens sont armés depuis les 10 morts du centre éducatif d'Örebro en février. Dans l'ensemble, les conditions de sécurité sont moindres dans le reste de l'Europe, même si des événements locaux entraînent des relèvements de la sécurité, comme en Serbie, suite aux 10 morts dans une école primaire de Belgrade en 2023. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
À Bruxelles comme à Paris, il est 13h40. Et la fusillade qui s'est produite en Autriche fait la une de toute la presse dans le pays. Die Presse nous apprend que l'auteur de la fusillade, un jeune homme de 21 ans, avait envoyé une vidéo d'adieu à sa mère et qu'une bombe artisanale a été retrouvée dans son appartement. Le journal autrichien a aussi donné la parole à un grand psychologue qui appelle à mieux écouter les enfants et les adolescents. Ils n'ont pas à ravaler leur souffrance et à la porter avec eux. Pour y parvenir, dit-il, le travail éducatif doit être absolument complété par des spécialistes formés en pédagogie sociale accessible et constamment disponibles. Le soir, en Belgique, revient sur une opération policière d'une ampleur inédite qui a lieu aujourd'hui dans le quartier du Peterbos à Anderlecht, quartier réputé pour le trafic de stupéfiants sur place. Les habitants sont satisfaits de voir la police agir enfin, mais médusés par ce déploiement de force. Des dizaines de policiers quadrillent le quartier, certains en uniforme, d'autres en civil. Des fourgons blindés bloquent les accès, des véhicules banalisés arrivent par vagues. « J'habite ici depuis 17 ans », dit un habitant, « je n'ai jamais vu ça. Même la police de Liège est là. » Et puis The Guardian s'interroge. « On a promis à l'Europe un nouvel âge d'or du train de nuit. Pourquoi attendons-nous encore ?» Meilleur en termes d'environnement et d'expérience du voyageur. Pour les personnes qui disposent d'un budget limité, la perspective d'économiser une nuit d'hôtel est aussi attrayante, précise le quotidien britannique. Romance, excitation, durabilité, les trains couchettes qui traversent le continent devraient être un succès. Conclusion du Guardian, il est temps que l'Union européenne prenne le train en marche.
RFI, les voix du monde.
La conférence sur l'océan se poursuit tout au long de la semaine à Nice, dans le sud de la France. Une semaine d'échanges avec la plupart des pays du monde, des scientifiques, des ONG, pour protéger les mers et les espèces qui y vivent, de plus en plus menacées. Le macaremoine, par exemple, emblématique de l'Irlande, figure désormais sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Il pourrait même disparaître dans moins de 100 ans si les eaux marines continuent de se réchauffer. Reportage, Clémence Pénard.
Bienvenue à bord. Cap vers l'œil de l'Irlande. Allons voir si on peut trouver quelques macareux.
L'œil de l'Irlande, Ireland's Eye, est un îlot sauvage à quelques kilomètres seulement de Dublin, la capitale. À la barre, Shane O'Darcy, marin aguerri, au regard bleu perçant, des yeux capables de repérer au loin ces petits oiseaux nichés sur des falaises escarpées.
There's a puffin there. Il y a un macareux juste là. Je vais essayer de m'en approcher discrètement. T'es prête ? Il y en a un seul. On va se rapprocher un peu. Tu le vois ? J'éteins le moteur, qu'on lui fasse pas peur.
En Irlande, les falaises sont un refuge idéal pour des milliers d'oiseaux marins. Ils y creusent de petits abris à flanc de roche, loin des prédateurs. Parmi eux, les macaremoines, appelés puffins en anglais, qui ont retrouvé leur quartier d'été. On ne peut les apercevoir ici que de mai à juillet, lors de la saison des amours, avant qu'ils ne reprennent le large, ce qui, selon Shane, ne fait qu'ajouter à leur magie.
Beaucoup de gens ont du mal à croire qu'ils existent vraiment. Quand tu vois un macareux pour la première fois, il est si petit qu'il a la taille d'une tasse à thé. Mais si tu le regardes assez longtemps, il grandit jusqu'à devenir aussi gros qu'une théière. C'est ça la magie du macareux.
That's puffin magic.
Avec son entreprise Oath Adventures, Shane emmène ainsi chaque jour de nombreux passionnés désireux d'apercevoir ce petit oiseau au plumage noir et blanc et au bec orangé, bien plus à l'aise dans l'eau que dans les airs, selon Niall Hatch de l'ONG Birdwatch Ireland.
Les macareux sont des oiseaux inimitables, à la fois adorables et presque comiques. On les compare parfois de petits clowns volants. La majeure partie de leur vie, ils la passent à flotter à la surface de l'eau tels de légers bouchons, sans même s'envoler. Quand ils plongent, c'est pour chasser des poissons et ils sont capables d'atteindre des profondeurs impressionnantes, jusqu'à 60 mètres sans difficulté.
Malheureusement, le macareux moine est désormais classé sur la liste rouge des espèces menacées en Irlande. On ne recense aujourd'hui plus que 15 000 couples de macareux à travers le pays, une baisse de 29% en seulement 20 ans. Un déclin principalement lié au réchauffement des océans, comme l'explique Niall Hatch.
Les macareux se nourrissent de petits poissons appelés lançons et sprats, qui eux-mêmes se nourrissent de plancton. Or, les planctons aiment les eaux froides. Avec la hausse de la température de la mer, les planctons se déplacent vers le nord, vers les eaux plus froides, suivis par ces petits poissons, ce qui les éloigne des colonies de reproduction des macareux. Mais si la distance devient trop grande pour que les adultes puissent revenir à temps nourrir leurs poussins, ces derniers meurent de faim. Cette situation ne peut durer que quelques années avant que toute la population ne s'effondre. Car petit à petit, les adultes meurent, il n'y a plus personne pour les remplacer.
Shane O'Doherty alerte aussi sur le comportement de certains randonneurs amateurs qui, en cherchant à prendre des photos de ce charmant oiseau au bord des falaises, perturbent leur tranquillité.
C'est ce que j'aime, c'est m'approcher juste assez pour observer les animaux de près sans jamais les déranger. Et c'est là tout l'enjeu, ne pas les déranger. C'est plus difficile qu'on ne le pense. En réalité, si l'animal réagit à ta présence, c'est que tu le déranges déjà.
Il s'agit donc d'une extinction silencieuse, presque invisible depuis les falaises irlandaises où les macareux continuent d'apparaître chaque année, mais sans descendance. Ailleurs, le déclin des populations est déjà irréversible. En Islande ou en Norvège, certaines colonies de macareux moines ont d'ores et déjà disparu, victimes du réchauffement des eaux qui bouleverse toute la chaîne alimentaire dont les macareux dépendent.
Un reportage de notre correspondante en Irlande, Clémence Pénard, à réécouter ce soir dans l'émission Accent d'Europe à 17h10, temps universel. Un mot encore de l'actualité en Europe. Le Premier ministre britannique condamne à l'instant les violences insensées qui ont eu lieu ces deux dernières nuits en Irlande du Nord. 6 personnes arrêtées, 17 policiers blessés lors de violences anti-immigrées. Elles ont été déclenchées après l'inculpation de 12 adolescents pour la tentative de viol d'une jeune fille dans la ville de Ballymena. Des troubles sporadiques ont aussi eu lieu dans toute la province et notamment à Belfast. Les violences ont visé des zones où vivaient des immigrés roumains dans cette ville qui est située à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Belfast. Des incidents ont aussi été rapportés dans 2 autres villes qui se trouvent à proximité. Être meilleur ami ou fou amoureux d'une intelligence artificielle. Non, ça n'est pas le scénario d'un film de science-fiction, c'est la réalité de millions d'êtres humains. Les compagnons d'IA se multiplient grâce à des applications et s'ils séduisent, ils peuvent aussi être dangereux pour ceux qui les côtoient. C'est ce que pointent plusieurs études récentes. Elles attribuent aux compagnons virtuels des comportements dangereux, du harcèlement, de la manipulation et même de l'incitation au suicide. Bonjour Lou Ekal.
Bonjour.
D'abord, on va peut-être expliquer ce que c'est un compagnon d'intelligence artificielle.
Oui, concrètement, c'est un ami virtuel généré par une intelligence artificielle. Selon les applications, vous allez pouvoir le façonner de A à Z. Son physique, ses traits de caractère, est-ce que vous voulez qu'il soit plutôt drôle, triste ou anxieux? Sur certaines applications, vous pouvez même lui demander de ressembler à quelqu'un de connu, Monica Bellucci ou Jon Snow, le personnage de Game of Thrones par exemple. J'ai moi-même voulu faire le test avec l'application Replica, mais après avoir répondu à une série de questions pour créer mon partenaire idéal, je n'ai pas eu l'occasion de le découvrir. L'application est payante, 85€ l'année. À l'échelle mondiale, on estime 1 milliard de personnes interagissent avec un compagnon d'intelligence artificielle. Et certains vont jusqu'à le considérer comme un meilleur ami, voire un amoureux.
Et qu'est-ce qui fait que autant de personnes se tournent vers des compagnons virtuels ?
Eh bien, à la différence de ChatGPT ou Gemini, ces intelligences artificielles ne sont pas là pour répondre à une question, mais pour nouer un lien avec l'humain. Elles écoutent, conseillent, soutiennent, et surtout, elles sont conçues pour correspondre exactement aux attentes de l'utilisateur. C'est ce que nous explique Amélie Cordier, chercheuse dans le domaine de l'intelligence artificielle.
On leur donne l'illusion d'avoir trouvé l'être parfait, qui est d'une patience infinie parce qu'on peut lui parler de tout et n'importe quoi à longueur de journée et à toute heure de la nuit, qui est toujours d'accord avec vous, qui va toujours aller dans votre sens pour vous plaire, qui va toujours apporter des réponses satisfaisantes, qui va jamais rentrer dans la contradiction, qui va jamais être de mauvaise humeur, qui va jamais pas avoir envie de vous parler. Bref, qui va toujours être dans une situation qui vous plaît.
Et tout ça fait croire à l'utilisateur qu'il est bien dans une relation humaine, empathique, alors qu'il est en train de discuter avec un programme.
Mais ces compagnons numériques pourraient représenter donc un danger pour l'être humain qui les côtoie. Une étude de l'université de Singapour s'est penchée justement sur l'application Replica. 35 000 conversations ont été analysées. Qu'est-ce qu'on y apprend ?
Eh bien que ces compagnons numériques ont des comportements nuisibles. Le harcèlement et la violence sont présents dans 34% des interactions étudiées. Ce qui ressort, ce sont notamment des flirts agressifs, des avances sexuelles non sollicitées et aussi parfois une forme d'incitation à la violence. Un exemple, un utilisateur demande à son partenaire s'il est acceptable de frapper sa sœur avec une ceinture. Réponse du partenaire virtuel, cela ne me dérange pas. Une autre étude réalisée par l'ONG américaine Common Sense pointe un risque de manipulation et de conseils dangereux. Par exemple, un jeune explique que son compagnon de la plateforme lui a conseillé de tuer quelqu'un. Se pose aussi la question de l'incitation au suicide. En octobre 2024, une mère a assigné en justice une application accusant un compagnon virtuel d'avoir contribué au suicide de son fils de 14 ans en ne l'ayant pas dissuadé de passer à l'acte. Mais pour Amélie Cordier, le comportement des compagnons virtuels s'explique.
Il n'y a pas d'intentionnalité dans le système. Lorsqu'un système tient des propos qui incitent une personne au suicide, c'est que la personne, dans son contexte d'interaction avec le système, a contribué à mettre en place un cadre dans lequel ces propos ont pu émerger. Et le système, aussi empathique qu'il soit, n'est pas en capacité d'identifier avec précision votre état mental à l'instant où vous interagissez et ne pas tenir des propos qui pourraient être mal interprétés.
Alors, quelle solution ? Interdire les compagnons virtuels aux plus jeunes ? Créer des IA plus éthiques ? Pour la chercheuse, l'urgence, c'est d'éduquer les citoyens à l'intelligence artificielle. Leur faire comprendre les risques et les limites de ces systèmes pour qu'ils puissent les utiliser tout en gardant un regard critique.
Lou et Cal. Notre rencontre quotidienne avec une personnalité du monde de la culture. Aujourd'hui, la réalisatrice Lola Doyon. Elle signe un film consacré à l'autisme au féminin. Parce que oui, ce handicap n'est pas toujours exactement le même pour les hommes et pour les femmes. Lola Doyon en fait une comédie romantique, différente, dont elle parle avec Elisabeth Le Quéré.
J'aime pas trop changer mes habitudes. Je suis hypersensible à la lumière et au bruit. Il y a des moments où je suis vraiment épuisée.
Lola Doyon, bonjour.
Bonjour.
Vous dites le sujet de différente est venu à moi. Qu'est-ce qui, dans ce thème de l'autisme au féminin, vous a particulièrement troublée, appelée, intéressée ?
Alors déjà, moi, je venais de loin. C'est-à-dire que quand on m'a proposé ces projets sur l'autisme, en me renseignant un peu, j'ai vu que je n'y connaissais absolument rien. Et j'ai découvert cette forme d'autisme sans déficience intellectuelle, assez spécifique aux femmes.
Katia, en fait, quand on la voit, voilà, elle a un travail, elle adore son travail, elle n'a pas de problème, mais elle en a d'autres qu'elle cache. Comment pourrait-on les décrire, en fait, ces symptômes de l'autisme ?
Le symptôme premier est le contact aux autres, qui est compliqué. Je parle pas de tous les autistes, je parle d'une personne. Et déjà, c'était compliqué en parlant que d'un personnage, de me dire, il faut que ce personnage soit possible. C'est un personnage de fiction, mais il faut qu'il soit crédible, il faut qu'il soit juste.
Katia, elle a un petit ami qui s'appelle Fred, qui ne comprend pas très bien. On sent que la relation entre eux, elle est à la fois très sincère, très vraie, et difficile.
Effectivement, il pense que ça va être ok juste de dire elle est autiste, ok, c'est un mot, c'est bon, c'est ce qu'elle est, puis peu importe. Voilà, c'était pour jouer aussi un petit peu avec ces clichés qu'on peut avoir sur l'autisme.
J'ai toujours eu des relations compliquées. On n'aurait jamais dû se remettre ensemble.
Moi, tous les moments que je passe avec toi, ils sont tellement remplis.
J'ai pas arrêté de passer d'un travail à un autre parce qu'on me reprochait de pas m'intégrer assez au groupe.
Que
Qu'est-ce que tu fais là?
Qu'est-ce que tu fais là?
Ben moi, je viens juste prendre un dossier en dessous de toi.
Lola Doyon, ce projet, il vous est venu au croisement de deux envies. Il y avait l'envie de raconter une histoire d'amour et l'envie de faire plonger le spectateur dans l'univers de l'autisme. Comment les deux se sont-ils imbriqués?
Il y avait effectivement... Au départ, l'envie de parler d'une histoire d'amour, donc je me suis dit, ouh, c'est large, quand même, entre qui et qui. Et je me suis dit, si je prenais ce personnage et que je me posais la question à me dire, qu'est-ce que peut vivre cette femme dans sa relation amoureuse et surtout qu'est-ce qu'elle va vivre aussi si elle découvre son autisme? Est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça changerait en fait?
Et qu'est-ce que ça changerait pour Fred, qui est son amoureux et qui veut lui avoir une histoire d'amour normale avec Katia? Et tout le film est dans la tension entre les deux.
Ce qui m'intéresse, c'est les réactions, les sentiments, qu'est-ce qui dérape, qu'est-ce qui rappe et dérape.
Et ça va rendre le quotidien très compliqué.
C'est plus compliqué, voilà. Et c'était cette complexité qui m'intéressait dans le quotidien. Et se dire, quand il y a ce diagnostic, les deux chemins ne sont pas les mêmes pour les deux personnages.
Lola Doyon, quels sont les retours qui vous toucheraient le plus? Ceux des spectatrices, spectateurs autistes, ou justement ceux des proches, ou de ceux qui ne connaissent pas du tout?
En fait, les deux, parce que c'est ça qui... En fait, je m'attendais pas à ça du tout. Il y a eu quelques projections déjà. Et les personnes concernées ont l'air de valider le film. Et je pense que c'est le plus grand soulagement.
Lola Doyon, merci beaucoup.
Merci énormément.
La réalisatrice Lola Doyon, qui signe donc le film Différente, elle répondait à Elisabeth Lequéré. Dans 5 minutes, un nouveau journal sur RFI, l'essentiel de l'actualité internationale, puis nous parlerons avec notre invité de la situation en cours à Los Angeles. La ville passe une nuit sous couvre-feu et puis à midi et demi, temps universel. C'est l'actualité africaine. Bonjour Nicolas Sieur.
Bonjour Anne Cantner.
Avec à la une aujourd'hui.
Des délégués venus de RDC et du Rwanda attendus à nouveau cette semaine à Washington pour travailler sur un projet d'accord de paix entre les deux pays. Un texte est en cours d'élaboration. Nous verrons ce que contiennent les premières moutures. Et puis, au Mali, le GNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, diffuse des vidéos de soldats maliens retenus en otage. Ils avaient été capturés le 1er juin lors de l'attaque du camp militaire de Boulikessi dans la région de Douenza, dans le centre du pays.
À tout à l'heure, Nicolas. On va écouter tout de suite un peu de musique. Celle du groupe britannique Kokoroko, ça signifie « sois fort » dans la langue nigériane « Urobo ». Le titre « Sweetie » figure sur leur nouvel album. C'est un hommage au disco ouest-africain des années 80 et 90 et c'est à écouter en ce moment dans la playlist RFI. Rocco, c'est à écouter en ce moment dans la playlist RFI. Vous restez avec nous, on se retrouve dans moins d'une minute maintenant pour le journal.
Ce mercredi sur RFI.
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Frédéric Lebel.
L'or est plus que jamais une valeur refuge à l'heure des volte-face américaines sur les droits de douane et de la fébrilité internationale. Les fonderies tournent à plein régime. C'est en Suisse que transitent les deux tiers de l'or échangé dans le monde.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 17h10 TU sur RFI.